de l'Église, entre guillemets, nous indique qu'il a vécu pendant 37 ans sur cette colonne. Et elle était donc sur les hauteurs, vous imaginez cette grande cité hein, de centaines de milliers d'habitants, et notre Simon le Stylite avec sa colonne, et puis ses disciples avec leur colonne, sur les hauteurs de la montagne, qui contemplait sans doute avec un certain dédain d'une sainteté extérieure, hein, le cœur étant complètement pollué, le cloaque putride et malodorant de cette cité païenne, n'est-ce pas? Vous voyez un petit peu ce qui se passait à cette époque. Ça fait partie de toutes les mauvaises conceptions de la sainteté. Et donc, les anciens, sans doute, de l'église de Jérusalem veulent avoir le cœur net, ils se demandent ce qui se passe. Surtout parce qu'il y a aussi des juifs, là, dans cette cité, donc il y a sans doute aussi des juifs qui sont convertis, mais enfin, en majorité des païens. Alors, qui envoie-t-on, hein? On envoie Barnabas. On envoie Barnabas jusqu'à Antioche pour certainement, en partie, faire un rapport objectif sur la naissance de cette église, pour savoir ce qu'il en est. On reconnaît dans l'église de Jérusalem, vous voyez, des années plus tard, toujours cette qualité particulière qui est la sienne. Et il prend le TGV de Jérusalem et sort avec son petit bagage dans la gare TGV d'Antioche. Et il découvre cette église de Jésus-Christ à Antioche. Et là, une fois de plus, c'est bouleversant. On a un petit joyau du livre des Actes. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. C'est beau, n'est-ce pas? Il voit la grâce de Dieu. Peut-être dans l'esprit de certains des anciens de l'église de Jérusalem, vous savez que l'apôtre Paul aura beaucoup de problèmes avec l'église de Jérusalem plus tard. Il ne voudra jamais rompre les ponts avec elle, il se souviendra de toute l'histoire passée, mais alors, avec ces chrétiens judaïsants qui voulaient absolument réintroduire dans l'évangile des notions méritoires avec la circoncision, avec le respect du sabbat, etc. Il va avoir continuellement des problèmes, ça va être extrêmement difficile à cause du conservatisme farouche de certains de ces anciens qui étaient encore marqués par leur judaïsme d'antan avant leur conversion. On peut là imaginez que certains d'entre eux auraient préféré qu'ils ne voient pas la grâce, qu'ils voient les problèmes, qu'ils froncent les sourcils à son tour, surtout lui qui était lévite d'origine, n'est-ce pas? Donc il avait exercé une fonction qui, tout comme chez les sacrificateurs, chez les rabbins, c'était une fonction qui vous rendait pointilleux sur l'importance de la loi, sur l'obéissance à la loi. Ça vous forge un esprit particulièrement pointilleux, n'est-ce pas? Et on aurait pu s'attendre qu'il ait, Barnabas, un regard de judaïsant légaliste, qui juge cette église d'Antioche en connaisseur des choses de la religion, et qui se met à dresser la liste de tout ce qui n'allait pas. Puis attention, il avait quand même une carte d'identité prestigieuse, ce bonhomme, Barnabas, une sorte de carte de visite incroyable. Il venait de l'église mère, il venait du lieu dans lequel le Saint-Esprit était descendu, c'est là que l'Église s'était constituée. Il était sans doute un des premiers membres de l'Église de Jésus-Christ à sa naissance. Vous vous rendez compte un petit peu, hein? Ça voulait dire qu'il était représentatif d'un miracle fantastique qui s'était passé un certain nombre d'années plus tôt à une certaine Pentecôte. Et donc, il était tentant pour Barnabas de présenter sa carte de visite prestigieuse en disant, mais vous savez, le maître étalon pour tout fonctionnement d'église maintenant sur la terre entière, c'est l'église d'où je viens. Et je suis le témoin direct et le premier bénéficiaire des événements divins qui se sont produits un jour de Pentecôte dans la ville de Jérusalem. Vous voyez, tout ce qui pouvait provoquer chez lui un regard autre que le regard de la grâce. Et pourtant, il voit la grâce de Dieu chez ses païens convertis à Jésus-Christ. Et il voit la grâce de Dieu, la générosité de Dieu, la beauté de Dieu. Il voit se profiler la personne et les œuvres du Christ ressuscité, glorifié, dans une église différente. Différente. Et bien entendu, imparfaite. Différente et imparfaite. Attention, on y viendra, les différences n'étaient pas des différences dans les domaines fondamentaux de la doctrine. C'est quand même important à souligner, nous l'avons déjà laissé entendre avec l'intégration de Saul de Tarse dans l'Église. Hein, on ne bâtit pas des ponts n'importe comment et sur n'importe quelle base, et il y a quand même un socle des piliers fondamentaux de la foi chrétienne qui ne sont pas négociables. Pas de tolérance dans ces domaines. Il y a des domaines où l'Église de Jésus-Christ se doit d'être radicale, clairement radicale, et de ne pas vivre la tolérance telle qu'on la conçoit aujourd'hui. D'être respectueuse, mais de dire non. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul évangile, etc. N'est-ce pas ? Là, il faut être clair. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent, même dans ce domaine, une forte élasticité. Donc là, église différente, parce que c'était une église à dominante, qu'on appelle pagano-chrétienne, hein, des chrétiens d'origine païenne, c'était la forte dominante de cette église. Là où à Jérusalem, la dominante, c'était judéo-chrétienne, c'était les juifs convertis à Jésus-Christ. Et en plus, un certain nombre de juifs qui étaient d'anciens pharisiens, d'anciens cadres dans le judaïsme de leur époque. Vous imaginez la différence entre les deux ? Par certains aspects, c'était énorme, au niveau des mentalités, de la manière de vivre, etc., n'est-ce pas ? Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Regard positif de la grâce sur une église différente et imparfaite. J'ai sous les yeux un proverbe arabe intéressant. Ne te fâche pas, parce que le buisson de rose porte des épines, mais réjouis-toi de ce que le buisson d'épines porte des roses. J'aime cela. Il y avait diverses manières de regarder l'église d'Antioche. Et Barnabas aurait pu voir les épines et complètement oblitérer, ne pas s'intéresser ni à la beauté des roses, ni à leur parfum. Il a choisi l'autre voie. Ce qui ne veut pas dire, je le dis parce que nous ne pourrons pas le détailler, ce qui ne veut pas dire que Barnabas ait ignoré l'existence des épines. Il a vu, avec l'expérience qui était sienne, les carences, la fragilité, la vulnérabilité, les problèmes de cette église. Nous en avons une preuve. La preuve, elle est dans le texte que nous ne pourrons pas analyser, mais qui figure en analyse profonde dans mon livre, c'est le verset 25. D'acte 11. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour rechercher, c'est un terme très très fort, ça n'a pas été facile, pour rechercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Si, à un moment donné, Barnabas a entrepris cette mission, a pris cette initiative, c'est parce qu'il se rendait bien compte que l'église d'Antioche était une pouponnière. Il y avait une quantité de bébés. C'était une maternité. quantité de bébés, puis les bébés qui naissaient spirituellement jour après jour. On était capable de donner des biberons, mais il y avait ceux qui étaient un peu plus grands, il fallait qu'ils aient autre chose que du lait. Et il s'est dit, mais si cette église qui se développe comme un champignon, n'est-ce pas, avec de surcroît des chrétiens d'origine païenne qui n'ont aucune culture biblique, qui ne connaissent pas du tout l'Ancien Testament, qui était le support matériel de la prédication à cette époque, il faut quand même s'en souvenir. Hein, l'apôtre Paul a passé toute une partie de son ministère à se servir de l'Ancien Testament pour apporter le message de la Nouvelle Alliance. Hein. Et puis ensuite, peu à peu, il a écrit de la part de Dieu, au fur et à mesure que Dieu lui donnait les éléments pour aller plus loin. Mais la Bible de l'Église de cette époque, c'était l'Ancien Testament. Alors, pour une Église à prédominance païenne, comme Antioche, aucune culture biblique, aucun socle de base avec lequel travailler. Donc, d'autant plus de fragilité qui nécessitait un enseignement systématique pour que ces bébés chrétiens puissent grandir et qu'il n'y ait pas des déviations qui partent vers tous les horizons. Donc un souci à cause de cette lucidité d'un homme de Dieu qui voyait que des choses n'allaient pas, mais qui voyait d'abord la beauté du Seigneur. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à développer dans nos vies. Surtout à cause de notre société moderne qui est bien continuellement tentée de souligner ce qui ne va pas. Hein, l'esprit vindicatif, les récriminations permanentes, le mécontentement cultivé. La moindre décision prise au niveau des autorités du pays est immédiatement contestée, quelle qu'elle soit. Moi, je suis toujours étonné, mais ça c'est les mécanismes de l'orgueil du cœur humain, mais je suis toujours étonné qu'il y ait tant de candidats qui se bousculent aux élections. Quand on sait combien, ensuite, il est difficile de gérer un pays qui en est arrivé au stade où notre pays en est. Mais il y a le moteur de l'orgueil et d'un tas d'autres choses, n'est-ce pas ? Mais c'est pour dire, n'est-ce pas ? Nous vivons dans un climat qui est infect dans ce domaine parce que continuellement nous entendons des récriminations. Quel est aujourd'hui l'employé, qu'on soit infirmier, qu'on travaille dans un magasin, dans une usine, dans une entreprise, qui ne vous dit pas « les relations deviennent infectes » ? Moi je n'entends que ça. Nous avions un ami qui vient une fois par mois chez nous pour une journée complète pour se ressourcer parce que ça fait 30 ans qu'il est infirmier en réanimation en plus à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors ça fait 30 ans que nous entendons tout ce qui s'y passe, hein, croyez-moi, il a passé peut-être plus d'un an chez nous de cette manière. Et nous disait, mais c'est infect, n'est-ce pas ? Partout c'est infect à cause de ce climat. On ne voit que ce qui est négatif. Alors là aussi, quand on circule beaucoup dans les églises, hein, vous savez, que de récriminations. Le regard aujourd'hui est tenté de s'apesantir sur tout ce qui ne va pas. Et j'aime Barnabas parce qu'il me rappelle la nécessité, quand j'arrive dans une nouvelle église, non pas de me laisser bloquer parce que je constate parfois très vite qu'il y a des choses qui clochent, et vous savez, plus vous visitez l'église, plus votre œil est exercé. Hein. Non ! Où est la grâce de Dieu dans cette église ? Où Jésus-Christ est-il visible ? C'est ça ce qui est important, n'est-ce pas ? Parce que ça va aussi modifier le caractère de nos relations les uns avec les autres. Si j'arrive tout de suite avec un regard à Kalachnikov, hein, mes amis, ça ne va pas arranger la qualité de mes relations, ensuite, y compris dans la communication de la parole de Dieu. Mais si j'apprends avec Dieu à découvrir la beauté de sa grâce à travers les personnes auxquelles je serre la main, à travers même les réalisations matérielles que Dieu a permises, ça fait aussi partie de l'église locale, et tant d'autres aspects, ça change tout quand je le vois, voyez. Il vit la grâce, et je suis persuadé que l'apôtre Paul, plus tard, a été a vécu avec ce regard positif de la grâce parce qu'il a été à l'école de Barnabas. Et je n'hésite pas à dire que avant que Paul ne devienne le premier dans l'équipe, d'ailleurs la Bible le prouve dans le livre des Actes, il était le second. L'équipe qui s'est formée pour entreprendre le premier voyage missionnaire, ce n'était pas Paul et Barnabas, ça commence avec Barnabas et Paul. C'est Barnabas qui est le chef. Il est plus ancien, il a plus d'expérience, il a certainement aussi un caractère de formateur. Il a les charismes et le caractère transformé qui lui permet de supporter aussi le caractère de ce jeune futur apôtre Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça y est, ça m'a échappé, mais peu importe. Oui, plus tard, donc, Paul va exceller dans l'action de grâce. Vous savez que la plupart de ses épîtres, en particulier adressées à des églises, commencent par l'action de grâce. Même cette église de Corinthe, qui lui en a fait voir, mais de toutes les couleurs, qui lui a fait verser des larmes. Il faut dire, il s'y passait des choses vraiment incroyables. Incroyables. Et puis il avait à cœur, il y avait travaillé. Hein, quand on voit le temps qu'il y a passé, les promesses que Dieu lui a données, les personnes qui se sont converties, il avait à cœur cette église. Eh bien, aussi bien dans la première que dans la deuxième épître aux Corinthiens, il souligne d'abord ce qui est beau dans cette église. Vous êtes nantis de tous les charismes, etc., n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu pour vous. Hein, c'est extraordinaire. Il y a juste une épître. Juste une épître adressée à une union d'églises, dirions-nous aujourd'hui, à un groupe d'églises au centre de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, les églises de Galatie, auxquelles l'apôtre Paul, quand il écrit, dit immédiatement sa stupéfaction. Il est choqué. Le texte grec laisse entendre il est choqué. Il est choqué de ce que, dans ces églises de Galatie, on est si promptement quitté le terrain de la grâce pour revenir à une sorte de pseudo-évangile qui n'est plus un évangile parce que ce sont les mérites, c'est l'accomplissement de la loi qui prévaut à nouveau. Alors là, il le rentre dans le chou, hein, avec l'anathème, hein, si quelqu'un prêche un autre évangile, même si c'était un ange qui le ferait, qu'il soit anathème. Parce que ce groupement d'églises est en danger de quitter le seul terrain qui s'appelle l'église de Jésus-Christ, celui du véritable évangile. Nous sommes sauvés par la foi seule, qui elle-même est un don de Dieu, n'est-ce pas, et sur la seule base de la générosité inouïe de Dieu à l'égard de ceux qui ont totalement démérité, de ces rebelles que nous sommes. C'est le texte dit d'une autre manière de Romains au chapitre 5, n'est-ce pas? Alors j'aime cela, j'aime cette dimension de l'action de grâce à cause d'un regard qui s'exerce à chercher d'abord les traces, les marques de la beauté de Jésus-Christ, même si tout cela est parfois voilé, amoindri par le péché, par des problèmes, par des ornières dans tel ou tel domaine. J'aimerais ici, j'ai sélectionné quelques illustrations. Il y en a une qui m'a vraiment parlé. Elle date d'octobre 1987, mais vous allez voir, elle est très actuelle. Je vous la livre telle qu'elle. Une dame d'un certain âge a pris un bol de soupe. Au moment de s'installer à l'une des nombreuses tables, elle s'avise qu'elle a oublié de se munir d'une cuillère. Déposant son plateau, elle s'en va en chercher une, et lorsqu'elle revient, surprise, un noir s'est installé devant le bol et il trempe sa cuillère dans la soupe. « Plutôt gonflé, ce noir, » pense la dame. Mais il a l'air gentil, ne le brusquons pas. Elle s'adresse à lui en tirant la soupe vers elle. « Vous permettez ?» Le noir ne répond que par un large sourire. Madame commence à manger. Mais le noir retire un peu le bol qu'il place au milieu de la table et retrempe sa cuillère. Il le fait avec une douceur telle dans le geste et dans le regard que la dame laisse faire, désarmée. Une silencieuse complicité s'est même établie. La soupe finie, le noir se lève, fait signe à la dame de ne pas bouger. Il revient bientôt avec une grande portion de frites qu'il pose au milieu de la table et il invite sa nouvelle compagne à se servir. Comme la soupe, les frites sont partagées. Le noir se lève encore, toujours avec le sourire, avec un grand merci, il s'en va. La dame songe à s'en aller. Elle cherche son sac à main qu'elle avait laissé accroché au dossier de sa chaise. Plus de sac. Mais alors, ce noir ! Elle s'apprête à demander qu'on poursuive le pickpocket en fuite et c'est alors qu'elle découvre un peu plus loin, près d'une fenêtre, toute semblable, son sac à main. Et sur la table, un bol de soupe qui a cessé de fumer sur un plateau où manque la cuillère. Ce n'est pas l'Africain qui a mangé sa soupe, mais elle, en se trompant de table, qui a mangé celle du noir. Et en partant, il a dit « Merci ». Ça s'est passé dans un restaurant en Suisse. Il se passe des choses bien. Voilà. Le regard de la grâce. Le meilleur remède à l'esprit de critique. Pas à l'esprit critique. J'ai bien dit à l'esprit de critique. Et le « de » fait toute la différence. La même différence qu'il y a entre juger et jauger. Dans jauger, vous avez le A de l'amour. Voyez la différence ? C'est intéressant parce que Matthieu 7 dira... Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera de la mesure du maître en grec dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors... Tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne jugez pas. C'est-à-dire, n'évaluez pas autrui en vous considérant comme le maître étalon du jugement des autres. N'évaluez pas les autres, ne les jugez pas du haut de votre 31 spirituel. Ne regardez pas les autres du haut en bas comme si vous étiez sur un piédestal, donc ne les condamnez pas. Par contre, vous avez ensuite le verset 6, qui est tout aussi important. Ne donnez pas les choses saintes, littéralement le sacré, aux chiens, et ne jetez pas vos... perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça veut dire demeurer lucide. Qu'on ne juge pas avec ce caractère qui condamne et qui est destructeur, c'est une chose. Mais néanmoins, nous devons demeurer lucides, donc jauger, évaluer les personnes. Évaluer les situations pour pouvoir réagir correctement. Il y a ceux qui disent « Ah, mais les Écritures disent, il ne faut pas juger. Donc à partir du moment où quelqu'un a l'audace, même avec la plus grande humilité, de dire écoutez, il y a quelque chose qui ne colle pas chez vous, vous récriminez, on dit ah mais tu me juges. Ah, ben, je suis désolé, les Écritures disent que nous devons nous juger nous-mêmes, déjà, n'est-ce pas? Et que nous sommes appelés à juger autrui, mais non pas pour l'écraser, non pas avec notre propre mesure à nous-mêmes, mais dans le sens qu'il faut que nous évaluions, nous prenons la mesure d'autrui, et c'est vrai que quand on est autorité, par exemple, dans l'église locale, un conseil d'anciens, et parfois même l'assemblée tout entière réunie, ça peut aboutir à une sanction, à une mise sous discipline, à une excommunication, dans certaines situations dont il est question dans Matthieu 18. Ça peut aller jusque-là, mais ça se fera toujours dans un climat de respect, de courtoisie, de véritable amour qui ne souhaite qu'une chose, c'est que la personne sanctionnée revienne le plus vite au Seigneur. Donc on ne va pas être d'une méchanceté abominable avec elle, bien au contraire, il va falloir travailler avec beaucoup d'amour et de fermeté dans l'amour et arroser tout ça de prières et parfois de larmes en disant Seigneur, vraiment, réintroduis-la dans notre vie de famille, qu'elle retrouve pleinement sa place. Il y a là un équilibre qui est important. Souvenons-nous donc de la différence entre l'esprit de critique qui est destructeur et l'esprit critique qui ne doit pas être poussé à l'extrême, mais qui est lui absolument nécessaire, jauger, mais ne pas juger au sens négatif. Quelqu'un a écrit très justement, il y a deux sortes de chrétiens, les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissants. Il y a les chrétiens tête chercheuse de fautes chez les autres, esprit pointilleux, tatillon, intolérant, stérilisant, au regard destructeur, inquisiteur, impitoyable. De véritables rayons laser, là. Jamais satisfait, jamais content. Et je pense à cette histoire, cette fable de La Fontaine, légèrement adaptée, l'histoire du père et de son fils qui vont vendre leur âne au marché. Alors le père, dans un premier temps, s'assoit sur la bête et le garçon marche à ses côtés. Et puis voilà que le long de la route qui mène au marché, quelqu'un ne se gêne pas pour dire à voix suffisamment haute pour être entendu, mais quel spectacle navrant, un gros gars solide assis sur l'âne tandis que le petit jeune doit marcher à côté. Alors le père, rouge de confusion, descend de l'âne et installe son fils sur la monture. Un peu plus loin, des passants font la remarque suivante, « Mais c'est effrayant! Cet homme doit marcher pendant que son petit garçon prend ses aises sur la monture. » Alors le papa dit à son fils, « Écoute, rejoins-moi. » Et les voilà tous les deux à Califourchon, sur l'âne. Mais d'autres alors s'écrient, mais comme ils sont cruels, montez tous les deux sur le même âne, nous allons nous plaindre à la société protectrice des animaux. Et ils descendent donc tous les deux. Et un peu plus loin, d'autres spectateurs commentent, mais c'est une folie, un âne qui n'a rien sur le dos et deux personnes qui marchent à côté. Et l'histoire se termine dans le fait que finalement, donc, les deux, le père et le fils, décident de porter l'âne ensemble. Et bien entendu, ils ne sont jamais arrivés au marché. La critique systématique qui stérilise, il est des chrétiens qui ne peuvent s'empêcher de voir des bémols partout. Cette personne est gentille, mais... Alors on est ravis, à cause de la première partie, n'est-ce pas? Mais alors, quelle douche froide quand arrive ce « mais hein, ». Ce « mais ». Ce programme est intéressant, toutefois. Le teint jaunâtre, les sourcils froncés, les lèvres tombantes, le front plissé, le regard bas, la voix monocorde et larmoyante. Ainsi se présente le semeur de découragement. Perpétuel insatisfait, il est toujours obsédé par ce qui manque, obnubilé par ce qui ne va pas, décrivant par le menu les événements tragiques, énumérant des montagnes d'impossibilités, comptabilisant les accros de santé, voyant le diable partout à l'œuvre. Sa philosophie s'apparente à celle du chrétien bouddhiste, qui boude, hein, bouddhiste. Et là, j'ai un extrait du sermon de Bénarès, de Bouddha. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la non-réalisation du désir est douleur, tous les objets d'attachement sont douleur, nous allons vers la dépression, n'est-ce pas? Lisez mon bouquin sur le découragement après ça. Eh oui. Le regard de Barnabas est un regard en profondeur. Ce n'est pas un regard superficiel. Ce n'est pas un regard qui se laisse égarer par les apparences, par les petits détails qui clochent. C'est le regard de l'amour sensible, qui sait faire la différence entre l'essentiel et le secondaire, qui ne s'achoppe pas sur tout. Alors vous avez un texte magnifique ici, Philippiens 1, 9. L'épître aux Philippiens est magnifique quant à l'accent de chaude affection de l'apôtre Paul, emprisonné à Rome, qui vit des temps extrêmement difficiles, mais qui a un de ses accents à cause de la qualité des relations de l'Église de Philippe avec lui. Et dans Philippiens 1, 9, il lui dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important ou ce qui convient le mieux afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Ou encore en clairvoyance, en tact affiné, en sensibilité parfaite. » Voilà les traductions qui ont été données de ce verset 9. Un amour qui apprend, oh c'est l'apprentissage de toute la vie, à faire la différence, je le redis, entre ce qui nécessite qu'on s'y arrête pour régler un problème et ce sur quoi l'on peut passer. Avoir le sens de la mesure, le sens de la nuance, le sens des convenances dans nos relations avec autrui. Savoir apprécier ce qui est important, apprendre à distinguer le fondamental d'accessoire, savoir faire la différence entre les montagnes et les taupinières. C'est important. C'est important. Alors je reconnais que c'est pas facile, mais la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie révolutionnaire dans laquelle nos mentalités progressivement changent complètement. L'apprentissage de l'amour sur le plan concret n'est pas chose facile. N'oublions pas que c'est le fruit de l'esprit, hein, c'est déposé en quelque sorte en semence en nous lors de notre nouvelle naissance, avec la venue du Saint-Esprit, et puis eh bien, il faut que tout cela se développe, hein, comme en respectant les étapes d'une croissance, tout comme dans la nature. C'est Jean Cocteau qui, de manière délicieuse, a su manier la langue française pour évoquer la difficulté d'aimer. Il a écrit ceci: « Le verbe aimer est décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait, et son futur est toujours conditionnel. » Il faut attacher ses ceintures, hein, sa ceinture. Hein. Son passé n'est jamais simple. C'est vrai que quand on pense au passé, nous l'avons vu avec Paul, hein, le passé de Saul et le problème, l'Église, hein, ce qui était arrivé auparavant, hein, chez Saul de Tarse, n'était pas facile pour l'amour de l'Église à son égard, même 3 ans plus tard. Le passé n'est jamais simple. Le présent n'est qu'imparfait, parce qu'on se rend compte combien notre amour est marqué au coin du péché, combien il est facilement conditionnel, intéressé, passionnel, jaloux, possessif, etc., etc., n'est-ce pas ? Et puis, son futur est toujours conditionnel, parce que c'est vrai, je t'aimerai si tu fais. Mais le Seigneur travaille. Importance du tact affiné de l'amour. C'est Victor Hugo qui a écrit: il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la tête d'un 5e étage et qui vous disent « je vous offre des fleurs ». Vous savez, ça c'est tout le problème de la confusion entre la transparence nécessaire de celui qui vit dans la lumière. Le disciple de Jésus-Christ, c'est un homme, c'est une femme qui vit dans la lumière. Il aime la lumière. Dès qu'il commence à trafiquer avec le péché, il est comme certaines bestioles qui cherchent les coins les plus sombres. Il cherche alors à se faufiler, à se glisser dans un domaine ténébreux. Vivre dans la lumière, donc, c'est d'avoir le souci de la transparence. Vivre en pécheur gracié. Ne pas jouer ce jeu tellement dangereux du personnage et de la personne. Ne pas vivre avec le masque. C'est si facile de mettre un masque pour que les autres voient autre chose que la réalité de nos souffrances, de nos combats, de nos échecs, de nos chutes. Mais certains croyants, sous prétexte qu'il nous faut vivre dans la lumière, dans la transparence, dans la vérité, sont tentés de se vanter de leur franchise. Ils vous diront: moi, je suis franc. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ils ne se rendent pas toujours compte que sur le chemin qu'ils ont parcouru depuis leur nouvelle naissance jusqu'à maintenant, ils ont laissé en cours de route derrière eux une quantité industrielle de cadavres, de personnes décapitées ou profondément blessées, par leur franchise. Parce que si la transparence est biblique, le nudisme ne l'est pas. Le naturisme ne l'est pas, c'est-à-dire, de la même manière qu'il existe un nudisme purement physique, c'est là le premier sens du terme, il existe un nudisme et un naturisme dans le domaine spirituel et moral qui n'est pas meilleur. Et qui consiste à vouloir être tellement un livre ouvert qu'on ne prend plus aucune précaution dans ses relations avec autrui. Or, l'amour est courtois. Et là encore, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, on en parle beaucoup ces jours-ci à cause de l'anniversaire du débarquement, et notamment de certains films vedettes comme Le Soldat Ryan, etc., n'est-ce pas ? Et vous savez qu'une des caractéristiques des médias actuels, y compris au niveau du cinéma, c'est de présenter la soi-disant vérité dans sa crudité la plus absolue. C'est-à-dire, on estime aujourd'hui, j'entendais d'ailleurs hier un reportage en voiture de quelqu'un qui disait, mais oui, il est important que nos enfants sachent les événements tels qu'ils se sont passés. Moi, je n'ai pas hésité à faire voir à notre enfant de tel âge le film Le Soldat Ryan. Sanguinolent, atroce, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une réalité derrière. Mais est-ce que cette réalité est supportable pour l'enfant? Est-ce que même elle est supportable pour l'adulte? Ça pose beaucoup de questions. Est-ce que ça ne va pas faire des dégâts? Est-ce que ça ne va pas, de l'autre côté, éventuellement blinder la personne au point qu'ensuite elle devient totalement insensible à la souffrance d'autrui, alors qu'elle sera hypersensible à sa propre souffrance, n'est-ce pas? Et à cause de cet étalage du plus cru, du plus violent, du plus hard dans les livres, etc., par tous les médias, nous finissons par penser que nous aussi, nous devons tout dire, nous devons être livre ouvert, tant pis si je vomis ma vérité à la face des autres et que les autres en sont tout éclaboussés et en souffrent énormément. Mais c'est faux, ceci. Et c'est là que parfois la psy actuelle est dangereuse, parce que trop souvent elle invite à dire vomissez, allez-y, n'ayez pas peur, ça vous fait du bien, sans réaliser que oui, ça fait peut-être jusqu'à un certain point un certain bien à la personne qui le fait, mais ça fait du mal à d'autres. Or, nous sommes dans un monde relationnel, nous vivons avec d'autres et nous avons autour de nous des gens fragiles, des gens vulnérables, des personnes blessées. Le message de l'Évangile est totalement révolutionnaire par rapport à ces concepts, n'est-ce pas? Et c'est au cœur de l'amour. L'amour est courtois. L'amour est plein de tact. L'amour réfléchit avant de parler comme une mitraillette. Est-ce que ce que je vais dire est juste? Est-ce utile? Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne manière? Ou est-ce que je fais mieux de me taire? Et c'est là que, dans la toute dernière partie, parce que le temps passe, j'aimerais souligner, et combien c'est important, c'est cette importance des différences qui existent entre nous à l'intérieur de nos églises locales. Je trouve que c'est fantastique. Nous sommes peu nombreux ici. Mais il y a entre chacun de nous des différences qui sont une mine extraordinaire de richesse au regard de Dieu. Précisément parce que nous sommes des êtres différents les uns des autres. Et c'est précisément aussi cette différence qui crée nos problèmes. Ou bien, nous utilisons ces différences pour créer des problèmes relationnels. Alors, essayons de réfléchir un petit peu à cela. Premièrement, nous avons tous des arrière-plans différents au plan culturel. Nous avons une chercheure malgache qui ne pourra jamais renier, même en vivant des années en France, le côté malgache de sa personnalité. Et c'est pas négatif ce que je dis, puisque j'aime bien Madagascar. Et j'espère bientôt y retourner. J'ai dû refuser récemment, mais il y a toujours une invitation en cours. Nous avons des arrière-plans d'éducation complètement différents les uns par rapport aux autres, n'est-ce pas? Surtout dans nos églises actuelles, de surcroît, qui sont des églises avec des provenances géographiques tellement différentes, parce qu'on bouge énormément dans notre temps, c'est fini. L'ancienne homogénéité de telle église qui n'était constituée que d'agriculteurs ou de citadins de tel type qui ne bougeaient pas du tout pendant la totalité de leur vie, n'est-ce pas? Et jusqu'à un certain point, par certains côtés, c'était plus facile, parce que maintenant, il y a des différences tellement sensibles. Quand vous pensez à ces églises pluriculturelles à cause du nombre de nationalités qui s'y côtoient, c'est incroyable dans certaines églises. vous avez 10, 12, 15, 20 nationalités qui se côtoient continuellement, n'est-ce pas? Et puis en plus, ça bouge d'année en année. Voyez, donc nous avons tous des arrière-plans sur ce plan également différents, des arrière-plans de tempérament différents. Ils sont très différents les uns des autres, n'est-ce pas, au point de vue tempérament. Et là où ça pose problème, c'est que nous sommes, vous et moi, tentés d'évaluer le comportement des autres à la lumière de notre propre univers. Et là, j'insiste beaucoup, de notre propre environnement, de notre propre éducation, notre propre culture, etc. Trois personnes tiennent un morceau de bois dans la main et le lâche. Celui de la première personne tombe à terre. Celui de la deuxième se dirige vers le haut. Celui de la troisième personne reste sur place. Quel est notre raisonnement premier ? Nous fronçons les sourcils, ce que je comprends très bien. Nous estimons que le morceau de bois qui tombe a le comportement que nous attendons de lui. Il répond à une loi bien connue, qui parfois crée bien des problèmes, mais qui a aussi ses avantages. Et nous disons, mais les deux autres morceaux de bois ont un comportement bizarre. Sauf si les trois personnes se situent chacune dans un environnement, dans un univers différent. Et c'est le cas. La première, c'est vous, moi, dans cette pièce. J'aurai un morceau de bois, je lâche, il tombe. Mais imaginez maintenant que la deuxième personne soit dans une piscine, elle plonge avec son morceau de bois, quand elle le lâche, le morceau de bois monte. Imaginez que la troisième personne soit dans une capsule spatiale et qu'elle lâche le morceau de bois et il flotte en apesanteur. Mais je pense que nous comprenons là notre problème. Voyez, première réaction, c'est aussi simple que ça. Il y a une seule possibilité qui est juste, qui est valable, qui appartient à notre univers, à ce qu'on connaît, à ce dont nous avons l'habitude, c'est la loi de l'apesanteur. Un point, c'est tout. Le problème, c'est que quand on transpose ça dans le domaine de nos relations, ça peut poser des normes différentes, des normes conflits. Quand quelque chose se passe dans la vie d'autrui, ou quand autrui, un frère, une sœur, réagit de telle ou telle manière, ou dit toute telle ou telle ou telle chose, explique telle ou telle situation, comment est-ce que nous réagissons ? Nous évaluons le comportement de la personne, ce qu'elle dit, la manière dont elle réagit, à partir de notre propre univers. Vous voyez ? Et c'est ça ce qui pose souvent d'énormes problèmes. Je vais vous prendre un exemple biblique, parce que, vous savez, bien avant que la psy découvre un certain nombre de grands principes, certains sont justes, d'autres faux, et puis les remèdes sont parfois très problématiques. La Bible, elle est souvent pleine de mécanismes de ce genre à travers la vie de certains personnages. Regardez dans le livre d'Esdras, donc Esdras un peu avant les psaumes, hein, Esdras, Néhémie, Esther. Dans Esdras, au chapitre 3, versets 10 et 13, à 13, Esdras 3, 10 à 13, nous sommes donc après l'exil et un contingent de 50 000 personnes à peu près est revenu de Babylonie grâce au décret de Cyrus et on se met au travail pour rebâtir le temple qui a été détruit en 587-586 avant Jésus-Christ. On pose les fondations du temple et au verset 10, il est écrit « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, l'Éternel on fit assister des sacrificateurs en costume, etc. » Verset 11, il y a ces chants magnifiques. Il est bon car sa miséricorde, un des plus beaux mots de l'Ancien Testament, là on n'a qu'un sens, hein, ça, sa bonté, sa bienveillance, sa loyauté, son amour constant, sa miséricorde aussi, pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs, des lévites, des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, le premier temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. C'est intéressant ce texte. Tout simplement parce que vous avez le même événement et des réactions diamétralement opposées qui pourraient être à la base d'un conflit de générations. Parce qu'il pourrait y avoir véritablement là un conflit de génération, alors qu'il semble que ce soit bien passé. Il y a peut-être eu des petites récriminations, des murmures, mais rien de catastrophique. Vous aviez la vieille génération, les derniers qui avaient connu le temple prestigieux de Salomon, détruit en 586. Alors, bien sûr, ceux-là, quand ils voyaient la taille des fondations, ils disaient « mais c'est rikiki ». Qu'est-ce que c'est que la gloire de ce deuxième sanctuaire par rapport à ce que nous avons connu, n'est-ce pas? Et donc, il pleurait. Et il pleurait à la mode orientale, avec force, cris et fracas et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y avait tous ceux qui étaient nés bien après l'événement. Il y avait eu 70 ans d'exil. Voyez, donc il y a toute une nouvelle génération qui était là. Et eux, ils n'avaient pas connu ce passé, ils ne l'avaient pas vu. On leur en avait certes parlé, mais parler de la dernière guerre et vivre la dernière guerre, ce sont deux choses totalement différentes, hein, on le sait aujourd'hui. Hein. Et on voit que les réactions sont différentes entre ceux qui ont vécu et ceux qui maintenant entendent parler. C'était la même chose. Cette nouvelle génération, elle était bouleversée parce que c'était l'aube d'une nouvelle étape. Vous vous rendez compte? Après cet exil tellement humiliant, désespérant, ce décret libérateur d'un roi païen. Et puis enfin là, on était à nouveau à Jérusalem. Certes, il y avait toutes les ruines, il y avait un travail énorme à faire, mais ça y est, on posait des fondations. Alors c'était la joie. Chacun réagissait par rapport à son âge, à son histoire, à son éducation, à son univers. Il y avait ceux du vieil univers, puis il y avait ceux d'un nouvel univers. Et là, une fois de plus, on peut faire cette transposition. Donc attention aux interprétations superficielles et rapides des attitudes, des paroles, des regards, qui génère la médisance, la critique, la jalousie, ou simplement, on ne s'est pas posé cette question, mais est-ce que je ne devrais quand même pas essayer un petit peu de me mettre dans la peau de l'autre? Voir pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? J'ai été très frappé par ce mot très sage de Blaise Pascal. Habituellement, je le traite plus tard dans le conflit entre Paul et Barnabas. Mais on ne verra pas le conflit cette fois-ci. J'aurais aimé qu'on le fasse, mais il y a tout un chapitre dessus dans mon livre. Mais Pascal écrit ceci. Quand on veut montrer à quelqu'un qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose. Car elle est vraie ordinairement de ce côté-là. Et il y a une sage vérité là-dedans. À savoir que je dois être sûr que la personne se trompe. Je dois avoir des critères d'évaluation objectifs. Donc, il est nécessaire aussi d'avoir une bonne connaissance des Écritures. Et puis, de surcroît, il importe que je m'intéresse au mécanisme. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour ça. J'essaie de comprendre pourquoi elle a réagi de cette manière. Vous savez, les trois évangélistes qui nous ont donné Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle d'ailleurs évangile synoptique. Et ils ont une vision commune à l'inverse de l'évangile selon Jean, n'est-ce pas, qui est tout à fait particulier sur ce plan. On pourrait très bien mettre les trois rédacteurs inspirés en conflit les uns avec les autres. Et vous savez que des sceptiques, des agnostiques, des opposants à la foi chrétienne, se hâtent, quand ils lisent la Bible, de chercher les contradictions apparentes, qui sont assez nombreuses, disons-le, à première lecture, entre Matthieu, Marc et Luc. Mais d'où viennent ces différences ? Elles viennent de ce que chacun des rédacteurs lui-même avait un arrière-plan différent, et d'autre part, qu'il a observé et écouté Jésus sous un angle différent. Comme si Jésus était comparable à une statue et que vous aviez trois personnes qui s'installent autour de la statue à trois endroits différents et qui rédigent un texte sur ce qu'ils voient. Quand on met les trois textes ensemble, je dis, mais ça ne colle pas tout à fait. Voyez ? Sauf quand on comprend qu'ils étaient installés à trois endroits différents. Alors, ah oui, là, maintenant, je comprends. Parce que ça arrive tous les jours. Que trois personnes vivent le même accident de voiture en tant que témoins, placés à des endroits différents, avec une optique différente, ils vont raconter, on va être tenté de dire, mais ils se contredisent, pardon, ils ne se contredisent pas forcément, leur angle va être différent. Leur perception partielle de l'événement va être différente. Tout ça est à prendre en compte aussi, n'est-ce pas ? Alors je ne veux pas dire que tout ça efface le péché lorsqu'il y a péché. Mais il est important que nous apprenions à comprendre ce qui nous entoure dans leurs réactions et que nous apprenions justement à faire la différence entre ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Parce que parfois, nous mettons l'étiquette péché sur ce qui n'est pas péché. Et là, nous y venons lorsque j'indique sur mon manuscrit que nous avons des goûts, nous avons des expressions forgées par notre histoire, par notre éducation, par notre origine géographique, etc., qui ne s'appellent pas forcément péché. Ça, il faut nous en souvenir. C'est vite fait parce que quelqu'un a un style, une manière d'évoquer les choses qui n'appartient pas à nos habitudes, c'est tellement facile de penser que derrière se cache le péché. Réfléchissons bien. L'Église locale est une famille de personnalités très diverses et différentes. Nous avons des tempéraments qui sont différents. Et c'est vite fait à cause d'un tempérament qui est absolument l'opposé du sien, à cause des expériences que nous avons pu faire, de dire à un tel, mais tu sais, la règle la meilleure, c'est celle-là. Je suis désolé, c'est peut-être la meilleure pour moi, c'est pas forcément la meilleure pour lui, pour elle. Et ces différences ne s'appellent pas péché. Sauf si nous pouvons avoir la certitude par une analyse juste des Écritures, pas incohérente, pas en sortant un texte de son contexte pour faire aux Écritures, dire aux Écritures n'importe quoi, n'est-ce pas ? Mais nous devons être plus prudents dans ce domaine avant d'étiqueter trop facilement. Les églises locales ont aussi leur personnalité, leur histoire, leur passé, leurs responsables. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y avait des différences évidentes entre l'église de Jérusalem et celle d'Antioche. Allez donc dans une église évangélique à Jérusalem. Je me souviens des plus beaux cultes que j'ai pu vivre dans mes voyages à Jérusalem. Mais cette église évangélique n'exprimait pas sa foi exactement comme je l'exprime habituellement. Elle n'était pas pour autant pécheresse. Nous avons vécu une communion formidable. Mais c'était une communauté messianique avec toute cette approche qui est teintée de toute la culture biblique du judaïsme. Mais bien sûr, on avait ôté toutes les scories, n'est-ce pas, de toute la tradition du judaïsme. Mais néanmoins, l'approche de certains textes bibliques était toute imprégnée, vous voyez, de toute une culture. Ça, c'est important. Mes amis, mais si vous étiez avec nous le week-end dernier, depuis le vendredi soir jusqu'au lundi de Pentecôte en début d'après-midi, certains d'entre vous auraient peut-être fait un infarctus. C'était une convention organisée par une église baptiste, donc africaine. Nous avons eu plus de couleurs, de rythmes et de chaleur affective et de bruit que pendant tout notre séjour au Sénégal tout récemment. C'est pas peu dire, hein? Ça nous a rappelé d'autres voyages dans d'autres coins d'Afrique, où nous avons retrouvé un petit peu les mêmes dimensions. Mais gloire à Dieu pour toutes les excellentes choses que nous avons vécues dans cette église. Nous n'étions pas d'accord avec tout. Mais nous avons dû nous souvenir que c'était une église africaine. Et qu'il y avait les marques de l'Afrique. Non pas les marques du fétichisme, de l'idolâtrie et de je ne sais quoi de l'Afrique, quoi qu'il me soit arrivé dans l'enseignant parce que ça coulait de source dans le thème qui nous avait été demandé, où j'ai pu faire remarquer que tout homme sur la terre et aime le magique et le fétichisme. Parce qu'à un moment donné, il me semblait qu'il fallait le dire, mais pas tout à fait au début. Mais il y avait la beauté de la grâce de Dieu. Et ça a été, je dois le dire, peut-être une des conventions les plus belles que nous avons vécues ces dernières années. Et vraiment, cette église a été bénie, nous avons été bénis avec elle, il y avait une écoute de la parole de Dieu, nous avons eu des études qui frisaient les deux heures. Mais les croyants étaient assoiffés. Et nous avons été touchés par les qualités de cette église, bien que dans certains domaines, nous n'étions pas forcément d'accord. Et notre ministère, c'est souvent la douche écossaise sur ce plan. Nous passons d'un week-end à l'autre, d'un climat à l'autre, d'un style d'église à l'autre. Alors, bien sûr, il y a des églises dont nous sortons mortifiés. Dans ce sens que là, alors non. Et où nous disons au Seigneur, pas trop souvent, s'il te plaît. Moi, je me souviens d'une église locale, d'ailleurs, qui nous a joué un tour, hein, parce qu'elle m'a demandé volontairement de traiter un thème sans me dire qu'elle avait demandé à quelqu'un d'autre de traiter le même thème, mais dans des voies différentes quelque temps auparavant, et parce qu'elle était sur le point d'éclater. Et le contestataire qui a été à la base du schisme dans cette église était là. Et il s'est arrangé pour m'arrêter chaque fois que c'était possible, avec un esprit négatif, mais polémique, méchant. C'était pas pour interroger. c'était pour contester, mais au point que ça a agacé un certain nombre des participants, mais aussi au point que je n'ai même pas pu aller au bout du minimum que je m'étais fixé dans l'enseignement à donner pendant ce week-end. Alors là, il y avait un problème de fond qui était un problème grave. D'ailleurs, ce qui s'est passé après. Il y a eu, quelque temps plus tard, un schisme. Et l'Église est restée extrêmement fragile. Et alors, je fais quand même la distinction, hein, entre l'Église dans laquelle il y a vraiment des problèmes de fond extrêmement graves et qui, dans certaines situations, peuvent être tellement destructeurs qu'il peut arriver un moment où le Seigneur dise à quelqu'un, écoute, si tu veux ne pas perdre trop de plumes et ne pas te détruire, il vaut mieux que tu ailles ailleurs. Ça arrive. Et je crois qu'il y a des moments où nous devons être sensibles à l'indication du Seigneur, ou bien tu te détruis parce que l'Église est vraiment destructrice, ou bien tu vas ailleurs parce que c'est la seule solution. Mais tu pars sans claquer la porte. Si c'est en faisant un scandale, si tu réagis méchamment, si tu es toi-même odieux dans ta dénonciation du péché de la communauté, c'est pas mieux. Et tu auras à t'humilier de la sorte. Mais si tu pars dans un esprit de paix personnelle, en étant transparent, sans nudisme, en exprimant si c'est nécessaire et avec courtoisie les désaccords qu'il faut dire pour expliquer pourquoi tu pars, et que tu le fais à la gloire de Dieu, alors vas-y. Vous voyez, j'essaye de vous montrer tous les aspects, parce que hein, notre cœur est tel que parfois nous saisissons tel aspect du message et l'appliquons de travers. Hein. Mais il y a des différences entre chaque église, entre chaque groupement d'églises. Il n'y a pas, je dirais, une seule église sur cette terre qui, à elle seule, laisse briller tous les prismes, ou enfin tous les côtés du prisme de la vérité divine avec une égale lumière. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres, parce que nous sommes différents les uns des autres. Voyez. Et c'est là, je le redis, la richesse de l'Église de Jésus-Christ. C'est John Stott qui dit ceci: en termes biologiques, nous pourrions dire qu'il est nécessaire qu'existent chez les chrétiens des tans, T-A-O-N-S, qui nous piquent et nous harcèlent, nous chrétiens, pour agir dans le sens du changement, et des chiens de garde qui aboient haut et fort à tout signe d'abandon des vérités bibliques. Il n'est facile de vivre ni avec des chiens de garde, ni avec des tans. Ni les uns ni les autres ne sont en bonne compagnie mutuelle. Il faut cependant que les tans ne piquent pas les chiens de garde et que les chiens de garde ne mangent pas les tans. Il faut qu'ils apprennent à coexister dans l'Église de Dieu et à remplir leur rôle en regardant d'abord le peuple de Dieu dans son ensemble qui a le plus grand besoin du ministère des uns et des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Encore faut-il que nous acceptions nos différences dans ce domaine, et encore faut-il que les chiens de garde ne mordent pas systématiquement tout ce qui ne leur plaît pas. Hein. Le moindre mollet qui se présente, hop, hein. C'est important. J'ai cet autre texte. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il y a dans l'Église d'aujourd'hui des hommes et des femmes décidés à tout prix à défendre et à maintenir la vérité divine révélée. Malheureusement, ils manquent parfois d'amour. Dès qu'ils pensent déceler une hérésie, la moutarde leur monte au nez, leur front se plisse, leur regard lance des éclairs et annonce l'assaut. Ils semblent ne prendre plaisir qu'au combat. D'autres font l'erreur inverse. Ils veulent à tout prix sauvegarder, manifester l'amour fraternel, pour cela, à sacrifier les vérités essentielles de la foi chrétienne. Ces deux attitudes excessives ne sont pas bibliques. La vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour, et l'amour devient faible s'il n'est pas renforcé par la vérité. Nous avons parlé dès hier, vous vous souvenez, de la nécessité d'équilibre. Et je vous ai dit hier que l'équilibre, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus avec une vraie maturité. Et c'est quelque chose de difficile, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. En 10 points, comme dans certains bouquins. Hein. Si vous respectez les 10 points, vous êtes sûr au bout que ça marche. C'est pas vrai. En fait, c'est là que notre intimité avec le Seigneur est importante. Si on n'avait que des recettes, et des recettes dans la Bible, nous n'aurions pas besoin de nous approcher du Seigneur. Il suffirait effectivement de suivre la recette. C'est difficile parce que cela nous oblige à vivre dans l'intimité du Seigneur. Pour que dans chaque situation, nous recevions aussi de Dieu des instructions et que nous puissions mûrir, nous puissions croître dans la qualité de nos relations les uns avec les autres. Je voudrais terminer en disant quand même, enfin, qu'il y a aussi des différences d'âge et de maturité spirituelle. Chaque membre est à un autre stade de croissance et de maturité spirituelle. Quand on entend l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, 12-14 qui évoque les bébés, les jeunes gens, les pères, il y a des différences de sensibilité au niveau de la conscience individuelle. Nous n'avons pas tous la même sensibilité au niveau de notre conscience. Vous savez, je dirais que plus on avance avec le Seigneur, plus notre conscience s'affine. Plus on s'habitue au ronron d'une église locale où on va vers une retraite, moins notre conscience s'affine. Et il arrive parfois que des jeunes chrétiens aient plus une conscience affinée que des chrétiens qui ont 40 ans de vie chrétienne. Parce que simplement, les chrétiens qui ont 40 ans de vie chrétienne se sont parfois endormis. Ils sont anesthésiés. Mais sinon, si vous vivez vraiment près du Seigneur, votre conscience va s'affiner, ce qui a fait dire à quelqu'un que les plus grands saints sont les plus grands pécheurs. Non pas parce que ce sont eux qui se plaisent à faire le plus de fautes, ils ne seraient pas saints au sens biblique, mais ce sont ceux qui, par leur proximité de la lumière divine, sont vraiment conscients de la rapidité, de la facilité avec laquelle, même dans le domaine des pensées, on dérive, on pêche. Si la lumière solaire, un rayon de soleil, traverse subitement une pièce, ne regardez pas vos carreaux. C'est comme ça, avec le Seigneur aussi, n'est-ce pas? Donc différence de sensibilité au niveau de la conscience individuelle. Différence, bien sûr, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et donc dans le discernement de la volonté de Dieu. Le discernement de la volonté de Dieu n'est pas toujours chose facile. Et là aussi, les appréciations peuvent être différentes. Différence dans l'évaluation des situations. Nous l'avons vu. Écoutez ceci, le petit garçon qui marchait le long de la voie ferrée avec son père. « Regarde, papa, les rails du chemin de fer se rejoignent là-bas. »« Mais non, mon fils, ils ne se rejoignent jamais, c'est juste une impression. » Le fils insiste, le père insiste. Plus tard, à son retour à la maison, le petit garçon parle à sa maman. Il dit à sa maman, « Maman, papa a menti. » Papa m'a dit que les rails du chemin de fer ne se rencontrent jamais, mais je sais que c'est vrai, je l'ai vu moi-même. Vision faussée par la perspective chez l'enfant, mais qu'on ne peut pas lui reprocher, elle est de son âge. Et c'est vrai que dans l'église locale, nos âges différents fait que nous avons aussi des perspectives qui parfois sont encore faussées quand nous sommes petits dans la foi, on se comprend. Mais nous apprenons peu à peu. Écoutez, enfin, nous avons élevé 4 enfants. L'aîné a 32 ans, le dernier va sur 24 ans. Vous imaginez bien que tout en ayant des principes clairs qui ont valu pour l'éducation de chacun d'eux, nous avons quand même appliqué ces principes différemment entre garçons et filles, et puis par rapport aux âges. Vous ne pouvez pas exiger d'un enfant de 4 ans qu'il parle la qualité de français que va parler son aîné qui est en sixième ou je ne sais pas quoi, vous comprenez. Mais ce qui nous apparaît plein de bon sens normalement, dans l'éducation des enfants, et c'est ce qui complique l'éducation des enfants, en fait c'est cette nécessité de tenir compte des différences. On a des principes, mais il faut tenir compte des différences. Et c'est ce qui fait que c'est difficile parfois. Et qu'on peut commettre des gaffes monstrueuses lorsque on est bulldozer dans l'application de certains principes de manière extrêmement rigide, sans tenir compte des différences. Mais dans nos relations les uns avec les autres, dans les lits, c'est la même chose. Je dois apprendre à tenir compte des différences dans le langage, dans le vocabulaire utilisé, etc. Et puis enfin, il y a aussi des périodes plus difficiles dans la vie du croyant, tout comme dans la vie des églises. Il y a des états momentanés. Il y a des églises que nous avons visitées avec un bonheur énorme. C'était, je dirais, des églises mères, des églises qui avaient une vitalité, une maturité, qui rendaient un très bon témoignage, qui avaient même un rayonnement dans toute une région. Nous les avons revisitées. Elles étaient en pleine situation difficile. Moi, je ne connais pas une église qui, pendant des années et des années, est toujours au top niveau. Les églises vivent un cycle, qu'elles le veuillent ou non, parce que les cycles sont nécessaires dans la vie d'une église. Je ne veux pas dire que les conflits destructeurs, il ne s'agit pas qu'une église s'écroule chaque fois complètement, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des périodes de fécondité. Et je suis frappé de voir que souvent les périodes de fécondité ne correspondent pas forcément aux périodes pendant lesquelles on évangélise le plus. Il arrive souvent qu'on évangélise pendant un certain temps, on ne voit rien. Et on est tenté de dire à quoi ça sert. Et puis dans une période où on est même dans le plein fléchissement d'un témoignage systématique partout, Dieu sauve des personnes qui n'ont parfois même aucun rapport avec tout le travail d'évangélisation que nous avons fait. Comme si Dieu voulait nous enseigner l'humilité pour l'église locale. N'est-ce pas? Et on entre dans une période de grande fécondité. Et puis ensuite, il y a un travail de purification. L'Église va être textée, travaillée par le Seigneur, il va y avoir des scories qui vont sauter. Tout ça fait partie de la vie d'une Église, tout comme il y a des cycles dans nos propres vies, il y a des périodes de fécondité, des périodes beaucoup plus difficiles où on traverse des déserts. Mais ce qui arrive dans ma propre vie en tant qu'individu arrive dans une vie collective d'hommes et de femmes qui sont placés côte à côte et qui travaillent ensemble, unis par le Saint-Esprit. Nous devons absolument l'accepter aussi. Alors il y a des états momentanés pendant lesquels ça ne va pas. Alors parfois, quand un disciple de Jésus-Christ, le dimanche à la fin du culte, part sans saluer personne, toute l'Église sait dans les heures qui suivent, grâce au téléphone, que cette personne est impolie, elle manque de courtoisie parce qu'elle n'a pas salué un tel à la fin du culte. Et parfois, cette personne, on ne lui téléphonera même pas pour simplement lui dire « Mais comment vas-tu ? » Tu es parti très vite ce matin, j'ai pas eu le temps, j'aurais bien aimé simplement avoir de tes nouvelles, ce que tu peux me dire, gentiment, fraternellement, n'est-ce pas, pour savoir. Non ! Et cette personne est la dernière à savoir, par les bruits qui courent tout ce qu'on pense d'elle. Mais il se peut, ou bien qu'elle ait eu un problème personnel, qui fasse qu'elle ait eu besoin de partir. Après tout, qui peut empêcher quelqu'un de partir parce qu'à la fin du culte, il en a vraiment un besoin intérieur profond d'être dans la solitude, de régler un problème, que sais-je encore, ou parce que le message l'a profondément remué dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas? Et il peut aussi partir parce que subitement, il se rend compte qu'il a oublié d'éteindre le gaz sous la casserole. C'est aussi arrivé. Nous connaissons un couple de chers bien-aimés. Au moment de partir pour le culte, l'épouse a oublié d'éteindre le gaz sous l'appareil pour les frites. Ouais. Mais mes amis, la maison a flambé pendant le culte. Et c'était une famille engagée pour le Seigneur, lui était ancien dans cette église, et il venait de refaire l'intérieur de la maison, mes amis. Alors, vous voyez, nous avons des situations différentes qui font que, soyons prudents, au lieu de laisser courir des bruits, essayons de nous interroger, et ne pas tout de suite partir vers une enquête extrêmement négative vis-à-vis de cette personne. Écoutez Spurgeon, c'est le prince des prédicateurs, il avait alors des images, il croquait des choses, c'était extraordinaire. Ne voyons pas des offenses où il n'y en a pas. Souvent, un homme a été offensé par un autre sans aucune raison. Une personne a dit de quelqu'un d'autre qui passait dans la rue, il ne m'a même pas salué. Il est trop fier pour me saluer parce que je suis pauvre. Or, cet ami bien-aimé qui fut ainsi blâmé ne pouvait pas voir plus loin que sa main car il était myope. Un autre a été critiqué pour ne pas avoir entendu, mais il était sourd. Et un autre pour ne pas avoir donné de poignée de main alors que son bras était paralysé. N'imaginez pas des offenses là où il n'y en a pas. On va s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais vous endormir. Puis moi aussi je dois dire que je commence à avoir envie de m'arrêter. Alors un texte, on va terminer sur un texte des Écritures, Colossiens, chapitre 3, puis je vous lirai une petite histoire là. Colossiens 3. Oh, le réalisme des Écritures. Colossiens 3, versets 12 et suivants. Colossiens 3, 12 et suivants. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, 13 maintenant. Supportez-vous les uns les autres. Pas dans le sens qu'on utilise aujourd'hui, hein, les supporters d'une équipe, c'est pas d'abord dans ce sens. Chaque fois que ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament, il a une connotation, je dirais pas négative, mais il signifie qu'il y a une situation problématique. C'est clair, y compris d'ailleurs dans le grec classique. Quand il est utilisé en grec classique, c'est dans une situation de conflit, de guerre, voyez. Dans le domaine moral, mon fils fait des bêtises, bêtise sur bêtise, continuellement je lui dis écoute, fais attention, je lui répète certaines choses, et puis chaque fois j'ai ma main qui me démange. Supportez-vous. Retenez-vous de laisser partir votre main. C'est dans ce sens. D'ailleurs, vous avez Jésus qui le dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Et c'est mentionné dans les trois évangiles, hein, dans Matthieu, Marc et Luc. L'apôtre Paul vis-à-vis des Corinthiens, à plusieurs reprises, hein, même chose. Il leur dit, mais vous, Corinthiens, vous supportez des gens bizarres, des faux docteurs, des exploiteurs, et moi, vous ne me supportez pas. Voyez, supportez-vous les uns les autres. Alors le texte d'Éphésiens 4, qui est parallèle à celui-ci, dit supportez-vous avec amour. Parce qu'on peut supporter les autres avec un soupir de machine à vapeur. Supportez-vous les uns les autres. Et le texte continue. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on dépasse la capacité du support. C'est-à-dire on commence à devenir amer, agacé, parfois rancunier, irrité, gêné et dans notre système de pensée, ça se détraque. Alors quand on arrive à ce stade, qu'on n'a plus cette réussite du support, sans que ça provoque l'embryon du péché en nous, alors on sait qu'il faut aller vers le pardon. Mais la première étape, c'est le support. Ça commence par là. Et c'est seulement quand le support tourne au vinaigre qu'il faut aller vers la deuxième étape, qui consiste à dire « je te demande pardon ». parce que je réagis mal vis-à-vis de toi, et c'est parfois l'occasion d'un échange dans lequel, de part et d'autre, on va gentiment, après avoir prié, pouvoir faire certaines mises au point. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, faites-vous grâce, littéralement, réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs ou siège en arbitre dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Siège en arbitre. Le terme peut être rendu par l'expression arbitre. Alors, quand il y a un coup de sifflet, c'est que la paix n'est plus là. Et qu'il y a donc un coup franc ou un pénalty, hein, ou un tir en coin nécessaire, hein, pour régler le problème. Il faut alors venir à la croix et aller vers autrui. Carton jaune, parfois le rouge, hein. Bon, ça c'est grave. Alors écoutez simplement. Swindoll, que j'ai évoqué, on m'a posé d'ailleurs la question concernant ses livres, raconte une histoire dans son propre ministère. Je n'oublierai jamais ce qui m'arriva il y a plusieurs années et qui illustre bien combien j'avais eu tort de porter un jugement. C'était l'été et je donnais une conférence biblique d'une semaine. Un couple que je n'avais jamais vu auparavant assistait à cette conférence. Nous nous sommes rencontrés brièvement le premier soir. Ce couple était sympathique et semblait particulièrement content d'être là. Puis, je remarquai à mesure que la semaine avançait que l'homme s'endormait à toutes les réunions. Je dis bien à toutes les réunions. En temps normal, cela ne me dérange pas. Je parle souvent pendant que d'autres dorment. Mais cette fois, pour une raison que j'ignore, j'ai pris ombrage. Arrivé au mercredi, j'ai éprouvé un sentiment d'irritation. Hein, le support, voyez, hein, qui est dépassé. Comme je l'ai déjà mentionné, ce fait s'était souvent produit, mais cet homme s'endormait moins de 10 minutes après le début de la réunion. Peu importe si je prêchais le matin ou le soir, il dormait. À la dernière réunion du vendredi soir, pendant laquelle il s'était endormi, j'eus la conviction que la jeune femme voulait assister et non son époux. Je l'ai jugé comme peu conséquent, probablement un chrétien charnel, pensais-je. La jeune femme resta dans la salle après le départ de la foule et de son mari. Elle me demanda si elle pouvait me parler pendant quelques minutes. Je supposais qu'elle voulait me confier à quel point elle était malheureuse de vivre avec un homme qui ne partageait pas le même intérêt qu'elle pour les choses spirituelles. Oh, comme j'avais tort! Elle m'apprit que c'était lui qui avait eu l'idée d'assister aux réunions. C'était son dernier souhait. Je ne comprenais pas. Elle me révéla alors qu'il avait un cancer en phase terminale et qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. À sa demande, ils assistaient à la conférence que je donnais, même si le médicament que lui prenait contre la douleur le faisait dormir, ce qui d'ailleurs l'embarrassait grandement. « Il aime le Seigneur, dit-elle, et vous êtes son prédicateur préféré. Il voulait à tout prix être ici pour vous rencontrer, pour vous entendre. Je fus frappé de stupeur. Elle me remercia de cette belle semaine et je pris congé. »